appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. L'inquiétude monte quant à la propagation de l'épidémie du choléra en RDC. Au 2 septembre, 24 217 cas suspects avec 528 décès ont été recensés. C'est désormais 20 provinces sur 26 qui sont touchées par la maladie, dont certaines zones de santé à Kinshasa. Le quartier Pakadjuma, à Limété, a également notifié des cas. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-49-69 et 09-97-06-49-69 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain Goy est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamiji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30. Le mardi à 14h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La propagation de l'épidémie du choléra RDC inquiète, comme on venait de le dire, près de 24 217 cas enregistrés au 2 septembre, 528 décès, 20 provinces sur 26, la ville de Kinshasa, le Grand Kasaï, le Grand Katanga. La situation inquiète, comment faire face à tout cela? Vous avez la parole dans Parole aux auditeurs pour en parler. John Kamangu pense que tant que l'eau potable sera une denrée rare, tant que la promiscuité fera partie du quotidien du Congolais, tant que l'insalubrité régnera à mettre en RDC, il est plus difficile que ces fléaux soient stoppés ou carrément éradiqués, surtout avec des gouvernants qui ont des difficultés de développer des mesures d'anticipation et dont le maître mot sont de courir derrière les événements tout en rejetant leurs responsabilités, alors que les actions de gouvernement se doivent d'une exécution en chaîne suivant une suite logique préétablie. Et nous avons maître Adrien qui est à Kananga, au Kasaï central, où je rappelle que les auditeurs nous suivent sur 104.3 FM. Merci, maître Adrien, d'être avec nous. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Thierry et la Menji. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Et depuis le déclenchement du phénomène, comme Inansapu, comme l'indiquent des partenaires de la RDC en matière de santé, le Kasaï aussi concerné par les choléras, et on craint plus avec la fragilité, les déplacements des populations, que la situation ne puisse pouvoir s'empirer. Quelles pourraient être les mesures d'urgence qui peuvent être prises, maître Adrien?
Oui, merci beaucoup, Pierrot, de la parole que vous m'accordez. C'est vrai que tout le monde a la peur dans le ventre par rapport à la situation que nous avions connue au niveau de notre province. Vous devez d'ailleurs savoir que beaucoup de familles d'accueil commencent maintenant à se résigner pour continuer toujours à accueillir nos frères et sœurs qui s'étaient retrouvés dans cette situation-là par rapport au choléra. C'est vrai que le choléra est présenté comme une maladie de main sale, Mais lorsque nous prenons la réalité dans notre province, c'est loin vraiment d'accepter une telle définition. Nous, ce qui nous tue, c'est quoi? C'est un problème d'eau potable. Parce que c'est comme John Kamango venait de le dire dans son message. Donc, chez nous ici, je confirme que l'eau est considérée comme un luxe. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines familles qui s'adonnent donc, à n'importe quelle eau pour intensifier toujours la soif. C'est comme ça que la première solution par la société spécialisée en matière d'eau potable pour que cette société puisse voir comment est-ce qu'il faut occuper la population de l'eau potable. Même si la question de l'eau au niveau de notre province et de notre ville, c'est une question transversale qui appelle une autre question d'énergie. Parce que nos amis de la régie des eaux nous disent toujours que nous sommes disposés à servir la population, mais voilà, nous sommes bloqués par la question d'énergie. Et cette question d'énergie, c'est une question qui remarque encore le sous-développement dans la province. J'ai beaucoup aimé le ministre de l'Intérieur qui a aussi reconnu que le Grand Kasaï, c'est parmi les provinces qui n'ont pas su se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'énergie. Donc là, nous avions tous salué comme la conscience commence quand même à régner dans le chef des gouvernants. C'est une très bonne chose. Donc voilà, la première solution d'abord, c'est régler d'abord la question de l'eau. Deuxième solution, passe par notre propre environnement. Là, ça n'appelle pas nécessairement l'intervention du gouvernant, mais aussi c'est une responsabilité partagée. Parce que lorsque nous vivons avec des saletés devant nos parcelles, devant nos maisons, ça n'implique pas nécessairement le gouvernant. Même nous, la population, nous avions cette obligation-là d'assainir nos milieux et d'assainir aussi notre environnement. Maintenant, la responsabilité du gouvernement vient dans la mesure où, dans le temps jadis, on avait certains services qu'on appelait services d'hygiène. Et ces services-là, c'est parmi les services qui faisaient aussi entrer de l'argent dans la caisse de l'État. Lorsqu'il y avait des saletés comme ça, nos amis-là mettaient la main sur les propriétaires des parcelles et c'était une façon d'intimider d'autres ménages pour qu'ils mettent un peu de la propriété devant leurs parcelles. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, ces services-là d'hygiène n'existent que des noms. Donc si l'État congolais pouvait relancer encore ces services-là pour qu'ils soient effectivement à l'œuvre, je pense que ça sera aussi une lutte sans voilà. contre ces maladies.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Adrien. Oui, merci beaucoup, maître, pour toutes ces précisions. On a déploré ce qui est arrivé au Kasaï, comme on s'inquiète qu'avec les déplacements des populations, que l'épidémie ne puisse se propager encore à grande échelle. Mais vous avez évoqué la méfiance plutôt de familles d'accueil par rapport à la maladie. Mais pour vous, la solution passe au-delà de la prise en charge, mais sont des mesures concrètes d'hygiène. Donner l'eau potable à la population qui est aussi tributaire à l'énergie électrique et les soins de l'environnement, et c'est là que vous avez fait appel au service d'hygiène publique, parce que rappelons quand même que le choléra s'est transmis comme on le dit bien, une maladie des mains sales. Cela veut dire quand l'eau est contaminée et quand les matières fécales ne sont pas gérées correctement, il y a des mouches qui s'y posent. Voilà autant de questions qui touchent à l'environnement pour lutter efficacement contre cette maladie. On reste à Kananga avec vous, Alain. Bonjour, Alain.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Makoba Alain à Kananga. Je pense que il est pratiquement regrettable qu'une telle maladie si dangereuse puisse atteindre d'abord 20 provinces sur 26 convoquées, et alors que nous avons causé d'énormes décès, parce que moi, je ne veux pas, je fais la santé publique. On dit en santé, quand est-ce qu'un problème devient un problème de santé? On dit, un problème devient un problème de santé, c'est lorsqu'il y a d'abord le décès. Et quand vous enregistrez d'abord des nombreux décès comme ça, et vous pensez que c'est pas un problème, j'affirme que c'est un problème. Mais je pense bien que observer cette maladie sur 20 provinces de la 26, c'est vraiment insuffisant. Ça prouve à suffisant qu'il y a des dysfonctionnements structurels et sectoriels des politiques publiques en matière de santé. Pourquoi je dis ça, Pierrot? Comment peut-on comprendre qu'une épidémie soit déclarée au même moment sur toute l'étendue de la République, aussi longtemps qu'il existe plusieurs mécanismes à alerter ou à retoucher aussi au ministère des Santé publique? Ces mécanismes ici devraient d'abord voir avec le ministère de la Santé pour voir, voilà ça, voilà ça. Et en plus, il y a des réunions qui où on dépense l'argent de l'État, les gens se retrouvent, les gens de la santé. Est-ce qu'elle n'avait pas dit que non, vraiment, il y a un problème de santé, il fallait faire tout pour que cette maladie ne puisse pas atteindre à peu près 20 provinces sur 26. Vous voyez que toutes ces choses-là font à ce que nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que dernièrement, lorsque vous avez organisé l'émission avec Gérard concernant les problèmes des déchets à Kinshasa, quand on disait que non, il fallait imposer des taxes aux citoyens. Non, non, les gens ont monté au créneau pour dire que non, il ne fallait pas les faire. Mais si vous voyez aujourd'hui, au moment où l'environnement est vraiment sale, je pense que cette maladie ne pourra pas cesser de se faire apparaître. Ce que je pense, c'est que nous devons prendre notre responsabilité en main. Parce qu'aujourd'hui, on crée, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays souverain, c'est bien. C'est ça aussi le moment de prouver notre souveraineté. Pas attendre seulement que l'homme se limite pour se dépasser. Quand vous prenez des pays comme l'Allemagne, la France et autres, j'en passe, c'est un problème qui est résolu par les institutions de la place. C'est pas pour dire que non, on va attendre une organisation internationale où nous sommes membres pour résoudre cela. Et c'est à ce moment-ci que nous devons prouver notre souveraineté. Parce que s'il s'agit des réactions politiques, les gens devraient monter au Grenade pour dire que nous sommes un pays souverain. C'est que moi, je demande, l'OMS a fait une bonne chose parce que c'est une organisation internationale où nous sommes membres. Et je pense qu'il appartient maintenant au gouvernement congolais de voir qu'est-ce que nous devrions faire. Parce qu'il y avait des services des jeunes. Bien sûr, Maître Adrien l'a dit, ce service-là faisait entrer l'argent dans la tête de l'État. Mais à Canada, on n'a pas connu ça parce que
voilà. On peut dire, Alain, que le service de l'hygiène publique a existé dans presque toutes les provinces de la RDC. Mais vous vous inquiétez. Vous dites qu'on devait avoir déjà le mécanisme d'alerte quand le choléra a commencé dans une province. Parce qu'on se rappellera qu'il y a plusieurs mois, la ville de Goma a été touchée, la province de Tanganyika. On a parlé de l'ancienne province orientale, une partie de la province de l'Équateur. Et là, vous pensez que quand l'épidémie était au début, on devait déjà avoir de mécanismes d'alerte pour éviter que cela ne puisse se propager comme c'est le cas aujourd'hui. Mais de toutes les façons, vous estimez, Alain, qu'il y a aussi la responsabilité du gouvernement dans la prise des mesures structurelles. Mais il y a aussi des partenaires qui accompagnent la RDC dans la prise en charge, dans la gestion surtout de ces cas de choléra. C'est pour cela, tout à l'heure, nous allons accorder la parole à notre invité, M. Emmanuel Lampert, qui est chef d'émission MSF Belgique ici en RDC. Il pourra nous parler de ce que Médecins Sans Frontières Belgique fait sur terrain dans le cadre de la prise en charge de la gestion de cette question des choléra. On pourra lui accorder la parole d'un moment à l'autre parce que vous avez évoqué le rôle que les partenaires jouent en accompagnant la RDC. Mais en attendant, on écoute Maître Sonville qui est à Lubumbashi où les auditeurs nous suivent sur je crois bien c'est 95.8 FM. Maître Sonville, merci d'être avec nous. Bonjour. Maître Sonville, bonjour. Voilà, des petits soucis des lignes. Alors, nous avons notre invité qui est en ligne, Monsieur Emmanuel Lampert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef d'émission de Médecins Sans Frontières Belgique ici en RDC et nous parlons de l'inquiétude par rapport à la propagation du choléra. Quels sont les éléments que MSF Belgique dispose, vous qui êtes vraiment sur terrain dans ces domaines de prise en charge aussi du choléra?
Voilà, je vous remercie pour l'opportunité qui nous est donnée encore une fois d'éclaircir aussi un peu et de donner de plus amples informations quant à cette situation qui est réellement préoccupante, alarmante. Comme ça a été dit les derniers jours, les dernières semaines, l'épidémie du choléra en République démocratique du Congo atteint désormais des proportions avec désormais 20 sur 26 provinces qui sont touchées par la maladie et une incidence qui est très inquiétante. Si on le compare aux années précédentes, c'est clair que c'est quasi sans équivoque. Et au même moment, il faut que nous rappelons aussi que nous sommes, dans la plupart des provinces, face et au début de la saison de pluie, qui peut être encore un facteur amplifiant. Voilà. Juste pour comparer à la même période de l'année passée, on est à 28-30% de cas en plus à la même période. Donc Médecins Sans Frontières a lancé sa riposte sur terrain aux flambées épidémiques de choléra dans le pays depuis le début des notifications et depuis le début des épidémies dans plusieurs zones. On peut parler des zones connues, lacustres, à l'est du pays, dans le Tanganyika, le long du lac Kivu, etc. Mais on doit aussi parler d'autres zones comme le Kwilu, le Congo central, le Haut-Lomami, l'Ituri, voire même le Maniema actuellement. Donc les Médecins Sans Frontières, les interventions qui sont en cours depuis le début de l'année, consistent effectivement sur terrain à renforcer tout le circuit de prise en charge avec des points de chlorination. Ensuite, on passe à des points de réhydratation par des sels de réhydratation orale. Et puis, bien sûr, il y a la mise en place des unités et des centres de traitement pour les cas de choléra. Donc, ça va de pair, bien évidemment, avec une formation continue du personnel du ministère de la Santé et autres équipes locales y impliquées, une promotion de la santé, mais aussi des comportements à adapter, le respect des règles d'hygiène, l'assainissement des sources d'eau, et bien évidemment, face à ces multiples foyers, il faut davantage prioriser les nouveaux foyers, et on passe dans ce cadre-là à une continuité par des donations qui sont faites, un relais qui davantage doit être prise par les équipes du ministère de la Santé, les équipes gouvernementaux, les équipes locaux, et bien évidemment, dans ce cadre-là, nous appelons davantage à une intensification de la réponse.
Mais quand on sait que oui,
aux besoins proportionnels liés à cette épidémie de choléra.
Mais quand on sait, Monsieur Emmanuel Lampert, quand on sait que la RDC est traversée par autant de cours d'eau et qu'il y a tous ces mouvements des populations, que ce soit par exemple sur les Tanganyika, que ce soit sur les lacs Kivu, que ce soit la rivière Kasai, que ce soit la Lomami, que ce soit même le fleuve, on sait qu'il y a des mouvements comme ça, des voyages qui vont d'une province à l'autre. Mais alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir de barrières qui permettent de contrôler peut-être le mouvement des populations d'une province à l'autre le long des rivières?
Ben, vous mentionnez là-bas une des mesures clés, bien évidemment. Je crois que nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt que le ministère de la Santé publique a maintenant mis en place un programme d'élimination du choléra et de contrôle des autres maladies diarrhéiques. C'est une très bonne chose. Maintenant, davantage, nous devons aller dans le concret. Et l'objectif principal devrait bien évidemment être d'enrayer à court terme les foyers afin de prévenir que davantage il y a la transmission entre les êtres humains et la propagation d'une épidémie, encore une fois, on le rappelle, qui, face et juste avant le début de la saison de pluie, comparé aux années passées, est sans précédent et qui est préoccupant et inquiétant. Donc je crois, face à tant de besoins, face à la proportionnalité des besoins, ben il faut choisir son cheval de combat. Il faut mettre les paniers, les œufs pas dans un panier, mais un devrait être concentré des actions concrètes, réelles, en termes de prise en charge, en termes de limitation des nouveaux cas qui sont contaminés dans les foyers qui sont en cours. Donc la continuité des actions déjà entrepris dans le Congo central, c'est clairement un appel lancé, dans le Kwilu, le Haut-Lomami, la continuation de la lutte contre l'épidémie dans le nord et Sud Kivu, et bien évidemment être très attentif et tout de suite circonscrire dans le temps, dans le lieu et dans la personne aussi les premières notifications au niveau de Maniema, à Kindu, à Lungoli, voire même dans quelques zones de santé au nord et au sud, le long du fleuve. Et ça devrait être un combat mené de front par l'ensemble des parties prenantes. Seul, personne réussira.
Merci. On va revenir à vous. On va écouter Roger qui nous appelle de Kamina. Roger, merci d'être avec nous dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, JR. C'est Roger Kavlo, le philosophe depuis Kamina. Bon, j'aimerais juste dire ceci. Bon, la propagation de la choléra, c'est aussi la responsabilité de notre gouvernement. Parce qu'un gouvernement responsable devait mettre en place et les gens capables de, je dirais, les gens capables de sensibiliser la population, comment éviter la choléra. Vous trouverez par exemple ici, dans certains hôpitaux de la ville de Kamina, trop de saletés partout. Prenons le cas de l'hôpital général de Malemba. Lorsque vous y arrivez, vous n'allez pas sentir que c'est un hôpital. On peut même sensibiliser les gens à la propriété, comment se laver les mains, comment faire ceci. Et tout cela, c'est le non-financement de l'État, le non-engagement de notre gouvernement à bien sensibiliser les gens, à bien sensibiliser les gens à éviter la choléra. Parce qu'aujourd'hui, la choléra touche 20 provinces parmi les 26 provinces. Ça, c'est la fin du monde. Nous demandons le gouvernement de s'engager, de se mettre en œuvre pour encourager aussi, pour sensibiliser les gens à éviter la choléra.
Merci beaucoup, Roger. Vous êtes aussi inquiété par rapport à l'état d'insalubrité dans le milieu hospitalier. Vous vous inquiétez par rapport aux hôpitaux que vous avez vus là-bas à Kamina, mais vous estimez que c'est la responsabilité du pouvoir public de pouvoir d'initier des campagnes de sensibilisation de la population pour lutter contre le choléra. Merci beaucoup, Roger, ingénieur Valérie. Vous gardez et la ligne. Nous avons Fidel qui, sur la page Facebook, estime que on nous amène des aides par la communauté internationale. Mais ce qui nous inquiète est que comment peut-on espérer toujours qu'on reçoive des aides alors que nous avons un problème sérieux d'eau potable. Quelles que soient toutes les interventions qu'on pourra apporter, mais si la question de l'eau potable n'est pas résolue, il nous sera très difficile de combattre le choléra. Il dit par exemple à Kanyama, par exemple, c'est du côté de Olomami. Par exemple, il n'y a aucun robinet d'eau potable. La population, depuis des années, consomme l'eau des puits. Alors, ça devient très compliqué dans ces cas de pouvoir lutter efficacement contre le choléra. On garde ingénieur Valérie en ligne ainsi que notre invité. Je rappelle que vous pouvez intervenir dans ces magazines en nous appelant au 081-890-4969, mais également au 09-97-06-4969 pour intervenir en direct. Nous parlons du choléra, comment venir à bout. Vous pouvez aussi également déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Ingénieur Valérie, merci d'être avec nous ici à Kinshasa, la capitale qui est aussi concernée par des cas de choléra. Bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les fidèles de la radio Kapi. Vous savez Pierrot, nous devons noter que l'un des avantages de la colonisation était s'exprimer à travers la réduction du taux de mortalité. C'est lorsque le colonisateur est arrivé, avec les systèmes modernes, qu'on a commencé la vaccination, l'hygiène et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons réduit sensiblement le taux de mortalité au milieu du tiers monde. Mais aussi aujourd'hui, nous devons encore revenir à un accroissement du taux de mortalité suite à des maladies, cela signifie que nous avons beaucoup reculé. Nous devons reconnaître que le choléra, d'abord, c'est une maladie que nous pouvons facilement éradiquer plus à travers la prévention qu'à travers la médecine curative. Parce qu'il s'agit là d'une bactérie qui évolue facilement dans l'eau. Ce n'est que lorsque l'individu ingère l'eau que cette bactérie arrive à atteindre l'organisme. Le médecin est là, il va me compléter. Lorsque ce microbe se trouve dans l'organisme, l'organisme déploie un système de défense en érigeant une barrière au niveau de l'estomac qu'on appelle la barrière gastrique par le médecin. Lorsque le microbe se multiplie et qu'il n'y a pas de traitement, c'est alors qu'il fuit cette barrière pour se retrouver finalement dans l'intestin où il va trouver un milieu favorable de culture et se développer. Mais puisque nous avons suffisamment d'eau, c'est un problème de prendre du sérieux dans le traitement de l'eau. C'est parce que la qualité de l'eau que nous fournissons est au niveau de la population, dont la population bénéficie, pose problème. Nous avons suffisamment des eaux de surface, mais aussi des eaux souterraines. Je prends un exemple. Nous avons un service comme les SNHR. Mais on n'a qu'à lui donner aussi des moyens pour qu'il multiplie le forage afin de donner de l'eau potable à la population. Ce sont des eaux souterraines. Nous en avons aussi assez. Puisque tous les milieux qu'on me cite là, ce sont des milieux nouveaux. Mais puisque nous avons un ministère du développement rural, ce ministère a un service spécialisé qui recèle des ingénieurs vertébrés formés pour ça. Mais on n'a qu'à lui donner de l'argent qu'il fournisse suffisamment de l'eau. Alors, lorsque nous parlons du traitement de l'eau, de la potabilité de l'eau, nous devons savoir qu'il y a des critères pour qu'une eau soit potable. Nous devons faire des analyses, aussi bien chimiques que microbiologiques. Est-ce que dans tous ces milieux-là, même quand les gens... C'est parce que lors de la crise d'eau, les gens vont boire de n'importe quoi comme eau. Moi, j'ai déjà été dans le milieu rural, mais il faut voir. Les gens vous prennent n'importe quoi pour faute d'eau. Donc, nous devons multiplier. Mm-hmm. Nous devons donner suffisamment de moyens à la régie des eaux, okay, au SNHR, afin que nous puissions rentabiliser, nous puissions rationaliser, nous puissions potabiliser la qualité de l'eau que nous donnons à la population.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Merci beaucoup. Vous avez insisté sur la qualité de l'eau. Rappelons que le SNHR, c'est le service national de l'hydraulique rurale qui est chargé de distribuer l'eau potable en milieu rural et la régie des eaux en milieu urbain. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Madame Joséphine, merci de nous avoir appelé de Boston aux États-Unis d'Amérique. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ah, bonjour, monsieur Pierrot. Merci à beaucoup de m'avoir passé la parole.
On vous écoute.
Moi, je vais dire ceci. Je vais me diriger, ou bien je vais parler directement aux associations, ou bien aux gens comme de l'OMS, les FAO, l'Union européenne, les Nations Unies. C'est vraiment très fatigant. C'est vraiment votre politique ne marche pas. Vous savez ce qu'on dit. Si un enseignant, chaque année, les élèves échouent, tout le monde échoue, 50 élèves échouent, chaque année, pendant 57 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas les élèves qui ne sont pas intelligents. C'est l'enseignant qui doit revoir ce qu'il est devenu. Vous savez, les histoires là de l'OMS sont au Congo, là, ça fait des années et des années. Ils donnent toujours les six et les selles pour traitement de choléra. J'étais au Congo en 2013, au niveau de Lubumbashi. Il y avait le choléra, mais il fallait voir, il fallait être à, j'étais au cimetière. J'ai vu en intérêt 2, 5, 10 corps par jour. C'est trop, mes chers amis. Ce que je vais vous demander, vous venez avec un président, vous nous imposez, et puis vous imposez au président là ce qu'il doit faire. Changer de politique. Laissez le peuple congolais choisir un président, et puis vous venez avec vos programmes. Laissez-le, parce que quand le président là sera choisi par la
population. Madame Joséphine, le problème de l'eau potable dans notre pays, vous avez suivi l'ingénieur Valérie qui les parle. Rappelons quand même que le problème de l'eau potable, que ce soit au Kasaï, que ce soit à Mbujimayi, Kananga, à Kinshasa, c'est quelque chose qui dure depuis de générations. C'est la responsabilité quand même, quelle que soit la manière dont peut-être les gens ont été élus. Mais les gens ont la responsabilité de pouvoir travailler pour avoir l'eau potable quand même. Rappelons que c'est la responsabilité des Congolais de pouvoir se donner l'eau potable, madame.
Monsieur Pierrot, depuis 1957, tu peux t'imaginer, dans des communes, fort fin communes, prenons Lubumbashi, prenons les communes de la Katoubala. Tu peux t'imaginer qu'il y a des parcelles qui n'ont pas les robinets de la régie des eaux. Ils n'ont pas les, ou bien, c'est, ils n'ont, le papa travaille, il est mal payé, il n'a pas le moyen pour aller à la régie des eaux mettre les robinets. Dans des villes, vous, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Pierrot? S'il y a un gouvernement bien, tout le monde aura de l'eau. La régie des eaux, imagine-toi les gens de la régie des eaux font des grèves. Imagine-toi
voilà.
En ville là-bas, à Gombe.
C'est pourquoi nous avons évoqué la responsabilité de Congolais. Les autres, comme vous les avez cités, ce ne sont que des partenaires, mais la responsabilité revient bien sûr aux Congolais de pouvoir se donner l'eau potable pour lutter contre ces genres de maladies. Nous revenons à notre invité, Monsieur Emmanuel Lampert. Et vous l'avez dit hein, tout à l'heure que c'est une question transversale, ça concerne tout le monde. Une seule personne ou bien une seule structure ne peut pas arriver vraiment à bout du choléra parce que les proportions sont très très inquiétantes. Mais est-ce que au niveau de MSF Belgique, vous avez la possibilité de pouvoir atteindre autant de provinces dans vos interventions quand même pour arriver à soulager tant mieux que soit ce qui se passe sur le terrain, Monsieur Emmanuel?
Merci Clément. Je crois que c'est une des questions clés qui devrait être débattue. Plusieurs intervenants sont revenus sur les conditions non seulement d'eau, mais on doit aussi appeler et parler hygiène, assainissement, dégrader la consommation de l'eau des rivières et sources non aménagées, peu de latrines disponibles, la défécation au bord des rivières ou dans la forêt. Ceci est réel et demande des interventions structurelles systémiques dans le temps. Là où vous posez tout à fait la bonne question et la priorité et l'urgence, c'est face à l'extension de l'épidémie en cours, déclarée, nous avons besoin des actions concrètes et d'urgence. Les Médecins sans frontières, depuis le début de l'année, et il faut le rappeler, on est à plus de 24 000 cas de choléra notifiés. Médecins sans frontières, dans tout le pays, là où on intervient face à cette épidémie, nous avons déjà pu prendre en charge plus de 12 600 de ces 24 000 cas. Mais aujourd'hui, notre inquiétude et notre appel, c'est face à l'extension de cette épidémie, face à cette proportionnalité des besoins qui ne fait que augmenter, nous devons voir de plus amples actions concrètes. Il est urgent que les activités initiées par Médecins sans frontières soient complétées afin d'assurer la fin de l'épidémie là où nous avons initié des actions. L'exemple pris dans le Congo central, Kimpese, Kimpangu, etc. Nous avons été sur terrain, on a formé, on a mis en place des structures. Eh bien, au moment qu'une courbe descendant, on donne des donations, maintenant la continuité de l'action pour que nos équipes du pool d'urgence Congo, les urgentistes, peuvent se déployer là où il y a une plus grande priorité, des nouvelles flambées, dans des zones où il y a moins de maîtrise, pas des intrants disponibles, pas de personnel formé, etc. Donc c'est tout à fait l'urgence et la question précise autour de laquelle nous devons davantage débattre. Il y a beaucoup à faire, mais face à une épidémie déclarée qui a tendance à s'étendre et on est face au début de la saison de pluie, il y a vraiment besoin urgent de compléter ces activités initiées par Médecins sans frontières. Et je crois l'appel est lancé à toutes les parties prenantes davantage de s'investir et de concrétiser les montants accordés, les montants déclarés. Il faut des actions concrètes et urgentes sur terrain, à côté des bénéficiaires, à côté des malades potentiels dans le Congo central, le Kwilu, le Tanganyika, les deux Kivu, le Bassouélé, le Maniema, le Haut-Lomami, bref, 20 sur 26 provinces désormais affectées.
Mais est-ce qu'il arrive que vous puissiez avoir des rencontres régulières, par exemple, avec d'autres parties prenantes, que ce soit d'autres agences ou d'autres organisations, le gouvernement? Y a-t-il des rencontres d'évaluation qui se tiennent entre tous les intervenants pour évaluer la situation et les mesures qui doivent être prises?
Si ces rencontres ont lieu chaque vendredi, je crois au sein du ministère de la Santé, il y a le comité national de coordination avec tous les partenaires impliqués. Bien évidemment, le LIT ne peut que revenir au gouvernement. Et la même chose se fait au niveau provincial, au niveau des zones de santé, au niveau des territoires. Et c'est que face, encore une fois, à une extension de l'épidémie en cours déclarée, encore une fois, 20 provinces sur 26. On a cité, par rapport aux années précédentes, les chiffres sont sans équivoque, que désormais Médecins sans frontières aussi a lancé l'appel en disant « Nous avons initié dans plusieurs foyers des actions, et bien maintenant, il faut davantage prioriser. Aussi pour Médecins sans frontières, les moyens sont pas sans limite. » Donc, s'il vous plaît, qu'il puisse y avoir une continuité pour que nos équipes puissent davantage s'orienter vers les nouvelles flambées, prioriser leurs actions, et bien que les autres aussi mettent la main à la pâte et concrétisent les actions sur terrain.
Nous allons écouter l'ingénieur Baché qui est à Kisangani. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre au 081-890-49-69 pour intervenir en direct. 081-890-69-69 pour intervenir en direct. 49-69, mais aussi au 09-96-07-09-97-06-49-69 pour intervenir en direct. Ingénieur Baché, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à nos compatriotes qui nous suivent. Par rapport à ce sujet, monsieur le journaliste, je peux dire que c'est normal qu'on puisse avoir l'épidémie de choléra dans notre pays, parce que, tu sais, partout au pays, presque 80% de la population n'ont pas l'accès à l'eau. Maintenant, je voulais dire que la cause, c'est le gouvernement qui est responsable. En soi, le gouvernement devait d'abord faire tout pour permettre ne fût-ce que l'accès à l'eau pour la population. Monsieur le journaliste, je vais vous dire juste par rapport à Goma, par exemple. Si je prends les territoires de Nyiragongo, pour les gens qui ne connaissent pas les territoires de Nyiragongo à Goma, il n'y a pas de l'eau. C'est juste le territoire qui est juste au pied du volcan Nyiragongo. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de source, il n'y a pas de rivière qui t'arrive là-bas. La population peut même rester une semaine sans même prendre bain, tu vois. Si tu regardes l'accès à l'eau pour la population, c'est les casquettes. Donc la population puise de l'eau au niveau du lac, l'eau qui n'est pas chlorée, et aussi l'aspect de l'assainissement de la ville. Moi, je voulais juste aussi interpeller même le ministère de l'Environnement. Ils ont un service de l'assainissement. Donc l'assainissement dans presque tous les marchés, il n'y a pas de l'eau. Dans tous les marchés, si à l'est, il n'y a pas de l'eau, on voit les choses, il y a des saletés, donc c'est incroyable. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est le gouvernement, il devait d'abord prioriser les choses, c'est-à-dire que faire accéder la population à l'eau, et si on a l'eau en disposition, là, on peut quand même dire que non, on peut lutter contre ces épidémies de choléra. Et je voulais aussi poser une question à votre invité, Monsieur Manuel, des Médecins sans frontières Belgique. Quels sont les dispositifs préventifs qu'ils prennent pour éviter les épidémies? parce que nous remarquons que les équipes de MSF, ils font des choses qu'on ne peut pas peut-être mais ils devaient plus faire des choses préventives qui pouvaient rassurer la population plus tard. Leurs interventions sont purement basiques. Ils arrivent, ils interviennent dans 2 semaines, 3 semaines, ils partent, les équipes partent, après les épidémies rentrent encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut nous dire des dispositifs préventifs que MSF fait, parce que on a vu par exemple le CICR qui initie le projet d'appuyer par exemple les stations de régie des eaux, ils essaient d'aménager les sources d'eau, les puits, les forages. Mais qu'est-ce que MSF fait pour la population pour que nous puissions vraiment sentir que l'assistance qu'il nous donne, c'est la vraie assistance pour la population?
Merci. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Bachet. Monsieur Emmanuel, pourriez-vous répondre à cette question directement? Notre ami de Kisangani voudrait savoir des actions de prévention menées par MSF ou bien il y a seulement les interventions quand il y a de pour prendre en charge des malades. Un peu rapidement, si vous avez la réponse à cette question.
C'est une très bonne question. Elle est légitime de la part de l'ingénieur que nous saluons. Je crois à chaque responsable sa responsabilité. En tant qu'acteur médico-humanitaire, je crois nous sommes vraiment là pour riposter aux flambées épidémiques et dans chaque riposte y intégrer. Il y a bien sûr la mise en place des points de chlorination, le suivi des points d'eau, la disponibilité des intrants au moment des besoins, voire même la motivation de certains personnels, la promotion de santé, mais sur le plan structurel, systémique, à chaque acteur, à chaque responsable, sa responsabilité.
Voilà, merci beaucoup. Polydor, vous êtes à Cambové. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour, Polydor.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Aujourd'hui, cette question de l'eau revient. Quelle pourra être aussi la responsabilité de la population dans la lutte contre l'épidémie du choléra à Polydor?
Je voulais intervenir dans ce sens-là. Donc, en ce qui concerne le choléra, moi, j'ai fabriqué un instrument idéal pour éradiquer cette maladie de mes salles. Et donc avec cet instrument-là, vous n'aurez pas à toucher les robinets ou bien la boîte à savon pour vous laver les mains. Et tout, vous le faites avec les pieds. Vous n'aurez pas à toucher le seau, le robinet, même l'instrument-là. Vous ne les touchez pas pour vous laver les mains. Et là, c'est idéal, en tout cas pour éradiquer toute maladie. Comme le médecin, l'autre intervenant, qui a dit que tout le monde peut se mettre la main à la pâte. Moi, dans mes innovations, j'ai fabriqué un instrument là qui pourra aider, et surtout dans le milieu des écoles, des hôpitaux, qui pourra aider dans ces milieux-là pour éradiquer un peu cette maladie.
Alors, vous savez que Polydor, cet instrument vous permet de vous laver les mains sans toucher le robinet. C'est à partir de pieds que vous pouvez déclencher le mécanisme qui permet qu'à ce qu'on se lave les mains sans avoir à manipuler le robinet, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et cet instrument, j'ai cherché par tous les moyens pour vous envoyer même les images, mais je ne suis pas bien arrivé. Mais c'est déjà opérationnel dans notre milieu ici. Il y a quelques-uns qui ont déjà eu ça, qui ont déjà goûté. Et c'est idéal, en tout cas, pour éradiquer cette maladie-là.
En tout cas, courage. Merci beaucoup, Polydor, pour l'initiative. Mais vous pouvez déposer les images. C'est possible de nous envoyer ça à travers l'adresse des paroles aux auditeurs, hein, pa@radiocapi.net. Si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez nous envoyer les images de cette innovation à l'adresse pa@radiocapi.net, mais également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. C'est possible que nous puissions avoir les images. Merci pour les efforts, ce que vous faites à Cambové pour aider à lutter contre la propagation du choléra. Deo Gracias, sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, estime que le ministère de la Santé a l'obligation de prendre des précautions le plus vite possible, en commençant par la sensibilisation de la population congolaise sur cette maladie, avec un accent particulier dans les provinces qui sont encore épargnées de cette épidémie. Le gouvernement congolais doit aussi avoir la culture de protéger sa population au niveau interne avant qu'il y ait les interventions de la communauté internationale, car il va de sa responsabilité. Innocent Armand estime que le choléra est considéré comme une maladie démentielle et le manque d'hygiène en est la cause. La solution serait l'assainissement du millier de vies et donner de l'eau potable à la population, car il est inconcevable qu'un pays qui regorge autant d'eau douce ne puisse arriver à alimenter sa population dans l'eau potable. Est-ce que Monsieur Emmanuel Lampart, au-delà de l'intervention, comme vous l'avez dit, sur la prise en charge, la formation de ceux qui interviennent, y a-t-il aussi des campagnes ciblées continuelles par rapport à toutes les autres mesures préventives que nous avons évoquées tout au long de cette émission?
Bien évidemment, vous l'avez bien, et je crois plusieurs intervenants ont bien mis l'accent sur la nécessité d'une sensibilisation continue. Ce n'est pas depuis hier que la République démocratique du Congo est face au foyer lacustre endémique de choléra avec des pics épidémiques, et nous connaissons davantage dans le Congo central, dans le Bandundu, l'Équateur, Maniema, le long du fleuve Congo, des périodes épidémiques. Donc une sensibilisation continue et une implication continue. Et avant, bien sûr, de passer à des aménagements structurels, malheureusement, face à cette urgence médicale, médico-humanitaire, j'irai jusqu'à ce point de l'appeler ainsi, il y a besoin de prioriser. Donc les interventions appelons à des efforts structurels. Bien évidemment, la sensibilisation doit accompagner, mais à l'heure actuelle, nous devons avoir de plus amples actions concrètes pour contenir l'extension de cette épidémie.
Merci. On va écouter Pacifique qui nous appelle de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pacifique, bonjour.
Bonjour Pierrot, également nous disons bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent pendant ce moment et l'invité qui est avec nous là-bas. Nous disons tout simplement Pierrot que voilà encore une fois de plus comment nous avons un gouvernement contre son peuple. C'est le gouvernement qui devait assurer à sa population de l'eau potable et une sécurité. Ça c'est le manque de la sécurité sociale. Je prends un seul exemple. Parmi les cinq chantiers, on nous a dit qu'il y avait aussi l'eau et l'électrification. Mais où en est-on arrivé avec ces projets ou ces programmes? Parce que si ces cinq chantiers étaient bien accomplis, je crois qu'on épargnerait les Congolais de mourir avec cette maladie que vous appelez des mains sales. Mais il n'y a pas d'eau. Que voulez-vous? Les gens vont vivre comment? Et aujourd'hui, nous faisons mention maintenant aux partenaires extérieurs. Nous faisons mention aux partenaires pour quelles raisons? Parce que nous avons suffisamment de moyens, Pierrot. Vous savez bien moi qu'on nous déclare dans des médias qu'il y a des gens qui ont des millions, des milliards. Mais quand vous regardez leurs responsabilités dans le pays, vraiment, vous ne pouvez pas réaliser qu'il y a des milliards à l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas arrêter tous ces gens-là et récupérer l'argent et donner de l'eau à la population congolaise? Comme ça, nous allons les épargner du choléra. Nous avions à son temps les services des cantonniers. Ça n'existait plus. Même si vous menez des sensibilisations aujourd'hui, ça ne sera que vous êtes en échec. Il faut d'abord commencer par les services des cantonniers où on vous dit, mettez les immondices ici, les déchets ménagers, et les cantonniers passeront pour les récupérer. À ce moment-là, quand vous faites passer la sensibilisation, ça pourra réussir. Mais aujourd'hui, quand vous dites tout simplement, bon, balayer, mais ils n'ont pas d'eau. C'est une insécurité. Et donc, le gouvernement doit réfléchir deux, trois fois pour prendre les paquets et mettre dans le programme de la santé pour épargner le peuple congolais de mourir, comme ça, comme Mme Joséphine l'a dit. Mais les gens, les Congolais commencent à mourir comme des insectes. Pourquoi? Dans un pays riche. Vous comprenez ça, Pierrot?
Oui, on vous comprend, monsieur Pacifique, oui. Alors, vous estimez qu'il y a la responsabilité du gouvernement hein, aujourd'hui par rapport à l'eau potable, on le sait, c'était la priorité inscrite dans le programme 5 chantiers, il y avait l'eau et l'électricité, mais rappelons quand même que les choses ont pu évoluer avec le programme de la modernisation. Mais Pacifique, pensez-vous que le secteur de l'eau dans la libéralisation, ça peut quand même résoudre un problème si on peut avoir un partenariat public-privé, parce que l'État seul, on ne voit pas comment, par miracle, peut-il résoudre le problème de l'eau potable sur l'ensemble du pays aujourd'hui.
Effectivement, Pierrot, parce que on nous a dit qu'à un certain moment, on devait libéraliser toutes ces sociétés d'État-là. Donc, la régie des eaux, on devait faire également des partenariats privés. Donc, c'est la même chose. Les cinq chantiers devaient commencer par là. Et si les gens ont de l'eau potable, ça les épargne dans des maladies. Aujourd'hui, Pierrot, il y a beaucoup de gens qui sont en train de piller le pays. Ils ont de l'argent. Indûment perçu cet argent-là du contribuable congolais. Mais le même contribuable congolais qui n'a pas d'eau, qui meurt chaque jour, tout ça. Non, mais il nous reste que la justice de Dieu, cette fois-ci.
Merci beaucoup, Pacifique. On peut recourir au partenariat public-privé pour permettre aux sociétés publiques qui s'occupent de distribuer l'eau potable de pouvoir le faire. Merci. On revient à vous, monsieur Emmanuel Lampert, pour conclure cette émission. On a suivi les uns et les autres. L'appel a été lancé. En deux minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir pour clore cet échange autour du choléra en RDC?
Pierrot, plusieurs intervenants sont revenus et ce pays s'est doté d'un plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra. Mm-hmm. La reprise de la mise en œuvre, bien évidemment, dans le moyen et long terme, nous devons se pencher de nouveau dessus. À l'heure actuelle, encore une fois, l'appel est lancé de prioriser et davantage de répondre face à cette urgence et l'extension de l'épidémie de choléra. Très concrètement, nous devons ensemble et davantage sur terrain couper la transmission de l'épidémie vers des zones non encore touchées et qui d'ailleurs, vous le savez plus que nous, sont touchées par d'autres urgences, des déplacés qui sont aussi sans équivoque à l'heure qu'on parle. Et il faut arrêter les flambées épidémiques qui sont encore en cours, dont le Kivu, le Tanganyika et le Congo central, et ainsi finaliser la riposte en cours. Je crois nous en profitons de dire à tous nos coéquipiers des Médecins sans frontières engagés dans la lutte depuis le début de cette année sur terrain, beaucoup de courage et nous les appelons à davantage être forts et à prioriser et à être clairs dans la priorisation et à lancer partout les appels pour davantage, plus des acteurs opérationnels sur terrain. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Lampert. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les chefs d'émission de Médecins sans frontières Belgique ici en RDC. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aussi aux auditeurs. Le débat, c'est pour ceux sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Mais il ne répond pas?
Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiookapi.net. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Pour l'instant, il nous reste à vous souhaiter un début de week-end et surtout un agréable week-end en compagnie de Radio Capi, la fréquence de la paix. Mais l'émission est aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.